Vivante Église.
Vivante Église.
Vivante Église, une émission proposée par Isabelle Duché.
Les 15 et 16 février à Toulouse est proposée par le service diocésain de la diaconie une session de théologie pratique. Elle est un des lieux qui permet d'entendre la parole des pauvres et de dévoiler ainsi le visage de Dieu qui se manifeste au cœur même de la précarité et de la misère. La croix, source d'espérance, c'est le thème de cette troisième session de théologie pratique qui rassemble des pauvres, des théologiens et toute personne qui souhaite se mettre à leur école. Sont venus nous présenter cette session Sébastien Combre, responsable du service de la diaconie du diocèse de Toulouse. Bonjour.
Bonjour.
À vos côtés, Tania, bonjour.
Bonjour.
Et Paulette.
Bonjour.
Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation ce matin. Vous avez vécu, Tania et Paulette, une session un peu comme celle que tous ceux qui le souhaitent sont invités à vivre ce week-end. Et vous allez nous en parler pendant cette émission. Vous étiez à Nevers. Mais je vous propose pour commencer notre échange d'écouter d'abord le père François Oudinet. Il interviendra pendant cette session. Il est prêtre et théologien français, enseignant aux facultés Loyola Paris. Il était l'invité de Radio Présence le 13 mars dernier et il explique quelle est la place de la parole des pauvres dans l'Église. Ça va nous mettre tout de suite dans l'ambiance.
La présence des plus pauvres dans l'Église, comme dans les évangiles, on peut dire qu'elle est quelque chose d'essentiel. Ce n'est pas simplement un élément en plus, mais c'est vraiment au cœur de ce qu'on vit avec le Christ. Et puis le pape François insiste beaucoup pour dire qu'il y a une harmonie à trouver entre nous. Elle va se trouver autour des plus pauvres, autour des derniers, autour de ceux qu'on a oubliés. Et c'est là, dit-il, qu'on rencontre vraiment la miséricorde de Dieu. On connaît l'insistance de François sur la miséricorde. Eh bien, la miséricorde de Dieu, elle se retrouve justement autour de ceux pour qui la vie est la plus difficile, mais qui ont en même temps quelque chose de précieux à nous apprendre et à partager avec nous. Les plus pauvres, ils nous rappellent que notre humanité est fragile. Et ils nous rappellent aussi que si on tient debout, c'est vraiment les uns par les autres. Quelque chose qu'ils disent beaucoup. Ils disent aussi souvent, ceux qui sont croyants, que s'ils sont encore là, alors que ils auraient pu être anéantis mille fois. S'ils sont encore là, c'est parce que Dieu les soutient, parce que vraiment la main de Dieu les tient, les garde, les accompagne, et ils le disent avec force. Et tout ça, c'est vrai que ça va contre notre idée d'un individu qui réussit tout seul, avec son propre mérite, grâce à ses propres forces ou avec sa propre intelligence, etc. Ça va contre ce mythe de l'individu qui réussit tout seul, qui est un mythe très présent dans notre société. On peut dire vraiment les personnes les plus pauvres, elles sont un peu à la maison, notamment quand elles lisent l'Évangile. Elles sont chez elles, elles se situent de plein pied dans ce texte. Mais parfois, on croit qu'on a une grande distance avec les textes bibliques. Elles nous font éprouver un peu autre chose. Et puis souvent, elles se montrent très attentives à ce qui habite les personnages. Vous voyez, les Évangiles, ce sont bien sûr des récits, pas simplement de grands discours, mais des récits. Et des personnages rencontrent Jésus, entrent en dialogue avec lui. Et les personnes plus pauvres qui les lisent, elles sont très attentives à ce qui se passe pour ces personnages, à leur cheminement. Et puis, bien sûr, elles y reconnaissent ce qui peut les habiter. Quand des personnes malades ou en grande difficulté vont vers Jésus, elles s'y reconnaissent volontiers et elles sont très attentives à la manière dont Jésus accueille et traite ces personnes. À l'inverse, quand d'autres opposants viennent face à Jésus, elles sont très sensibles aussi au conflit, à la violence qui se joue dans ces relations-là. Elles ont une approche de la parole qui est très concrète, qui n'est pas avec des grandes idées. C'est peut-être une tentation pour des lecteurs plus diplômés, on va dire, de tirer une sorte de morale de l'histoire, toujours, d'intellectualiser un peu les Écritures. Et elles, au contraire, elles sont très sensibles à la chair des Écritures parce qu'elles y reconnaissent ce qui fait la trame de leur vie. Au point qu'on peut se dire que quand les évangiles ont été écrits, ils ont sans doute été écrits largement pour des pauvres. Quand on voit comment les personnes pauvres aujourd'hui sont familières de ces évangiles, on peut se dire que vraiment, elles en sont un peu comme les premières destinataires, les destinataires naturels, si on veut. La foi des pauvres, ce n'est pas une sorte de cerise sur le gâteau, vous voyez, c'est-à-dire, ce n'est pas « je mène ma vie quotidienne, je fais tout ce que j'ai à faire, et puis, en plus, je consacre quelques minutes à Dieu ». Pas du tout. La foi des pauvres, elle nous renvoie à ce qu'il y a de plus existentiel, à ce qui nous fait vivre ou à ce qui nous fait mourir, à ce qui nous fait tenir debout quand tout est difficile. Elle nous renvoie aussi, la foi des pauvres, elle passe vraiment par des relations, par des rencontres, par une expérience de la fraternité. Et donc, je pense que essayer d'écouter leur foi, essayer de nous mettre à l'école de leur foi, ça nous renvoie à ce qui est plus essentiel, à ce qui est plus vital dans la rencontre du Christ et dans la présence de Dieu en nous. Quand on parle des plus pauvres dans l'Église, on se préoccupe souvent de leur donner quelque chose, ce qui bien sûr est important, il le faut aussi, mais leur dignité, c'est pas seulement de recevoir, c'est qu'eux aussi, ils ont à donner. Et nous, nous avons à recevoir d'eux, à apprendre d'eux. C'est comme ça aussi qu'ils prennent toute leur place dans la communauté humaine et dans l'Église. Et ils aspirent à donner et pas seulement à recevoir. Et en effet, ils ont une espérance aussi à nous donner, à nous transmettre. Ils nous apprennent que cette espérance, elle est très concrète. L'espérance chrétienne, elle n'est pas évanescente. Elle n'est pas seulement pour après la mort. Bien sûr, nous avons une espérance pour après la mort et c'est beau, mais pas seulement. C'est une espérance incarnée dès maintenant. Et puis, dans leur espérance, il y a une grande place pour les relations, pour la fraternité, pour ce qui se joue. Et ça, ça constitue aussi un appel à notre Église, à ne pas décevoir les pauvres, comme dit le pape François, à ne pas décevoir l'espérance qu'ils peuvent placer dans l'Église, dans les communautés ecclésiales.
Voilà, c'était le père François Audinet. Il interviendra lors de cette session de théologie pratique. Paulette et Tania, quand vous entendez ces mots du théologien, alors il a dit beaucoup de choses, hein, il a dit que en fait, vous viviez l'Évangile comme une parole vraie, comme quelque chose de très concret. Et parfois, ça peut aussi nous interroger sur la lecture de la parole de Dieu qu'on peut faire, qui parfois est trop lointaine. Comment quand vous lisez un texte de la parole de Dieu, et on va en parler pendant cette émission, comment elle vous parle ?
Alors, quand je suis arrivé à Nevers, on était sur le principe qu'on allait voir des frères, que c'était un rassemblement, une fraternité, et qu'on allait échanger et donc acquérir des richesses et donner les nôtres. C'était une sorte d'échange, mais c'est un échange très riche, justement du mot richesse. C'est-à-dire que c'est riche, riche de connaissances, d'apprendre plein de choses, de tout ce qui se passe dans les diocèses différents, dans les différentes régions. Comme il y avait quand même Lyon, Paris, Amiens, c'était quand même assez vaste au niveau du rassemblement. C'était beaucoup de diocèses réunis, quoi.
Oui.
Et on dit réseau Saint-Laurent aussi, par rapport à ça aussi. Voilà.
Oui, parce que le réseau Saint-Laurent est ce groupe, cette association qui, en fait, organise ces sessions de théologie, c'est ça, Sébastien Combe ?
Oui, tout à fait. Oui. Chaque année, il y a une session théologique qui est organisée par le réseau Saint-Laurent. Et parfois, chaque année, dupliquée aussi. Et trois fois, elle a été dupliquée à Toulouse. Elle peut être dupliquée à Angers, à Tours, en Belgique, mais non. Voilà. Donc la session qu'ont vécu Tania et Paulette sera dupliquée à Toulouse ce week-end.
Voilà. Comment les mots du père François Audinet résonnent en vous, Sébastien Combe ?
Moi, ce qui me marque, c'est que quand je lis l'Évangile, il y a des choses qui font résonance dans ce que dit François Audinet, qui lui est théologien, parce que ça m'éclaire. Mais ce qui m'éclaire aussi, c'est quand je partage l'Évangile avec des personnes qui vivent la galère et la précarité, qui vivent la honte, l'exclusion d'une manière ou d'une autre. Et en fait, ce qui fait ma compréhension du texte un peu complète quelque part, c'est ce croisement entre ces deux approches. On a besoin des deux. Voilà. Moi, je ne veux pas idéaliser la parole des pauvres en disant qu'on a besoin d'entendre l'Évangile qu'à travers la parole des pauvres. Cependant, si on l'oublie, et si on écoute l'Évangile qu'à travers le prisme des grands théologiens ou de ceux qui ont le savoir, le pouvoir et l'avoir, il nous manque quelque chose. Moi, j'ai envie de dire, le Christ est défiguré. S'il manque une des facettes qui le représente. Et les pauvres sont une de ces facettes indispensables pour comprendre les évangiles.
Paulette, c'est une fierté pour vous d'être appelée comme ça à donner votre avis sur la parole de Dieu, sur un texte, sur une tapisserie.
Je crois qu'on est tous appelés à un moment donné. On l'appelle du Seigneur, on est tous appelés. Et c'est vrai que des fois, je comprends pas trop bien les théologiens, parce qu'ils emploient des mots assez compliqués, des fois. Mais quand on parle des pauvres, c'est vrai qu'on est proche de Dieu, parce qu'on a souffert aussi. Dieu a souffert aussi, il n'était pas riche non plus. Voilà. Je me sens proche des pauvres, parce que on vit dans la précarité et on fait part à sa souffrance, à son jugement aussi, parce qu'elle a été jugée, il a été montré du doigt, et nous, on le vit sur le terrain, quoi, 14/24.
Oui.
Voilà. Et comme on dit toujours, on fait partie de son corps. On est ses bras, on est ses jambes, voilà. Et puis moi, ben, le Seigneur, il est dans mon âme. Moi, il est dans mon âme, quoi. J'ai grandi avec lui, c'est lui qui m'a donné les grâces que j'ai. Des fois, il n'écoute pas, parce qu'il a tellement d'autres choses que des fois, il ne m'écoute pas. Mais il est présent, je sais qu'il est là, quoi. Et tant qu'il est là, qu'il me guide, je n'ai pas peur de tomber dans les ténèbres, quoi. Même si ce monde, en ce moment, va très mal. Mais je dis que dans chaque être humain, il y a quelque chose de bon. Et c'est à nous, les chrétiens, de prier justement pour avoir un monde à nouveau qui soit en paix, quoi.
Oui, bien sûr. Le père François Audinet parle de cette espérance que les pauvres ont, puisque par votre quotidien, par une vie de galère, comme disait Sébastien Combes, d'exclusion, de difficultés, vous avez toujours cette présence de Dieu qui finalement vous donne l'espérance.
Ça donne la force.
Ça donne la force.
Moi, je sais que je me dis, bon, ben, aujourd'hui, ça ne va pas. Mais je dis, Seigneur, aujourd'hui, ça ne va pas. Est-ce que tu as prévu quelque chose de mieux pour moi demain? Et bon, je m'en vais au lit, je prie le lendemain. Et bien, peut-être c'est pire, mais peut-être c'est mieux. Mais je sais qu'il est là, quoi, qu'il me donne du courage pour avancer.
Voilà.
Et moi, par contre, je dis que c'est dans les petites choses de la vie aussi que systématiquement on pense à Jésus. C'est dans les petites choses de la vie, de tous les jours. C'est-à-dire qu'on peut avoir des jours où c'est le soleil radieux, tout va bien, et il y a des jours où ça va être plutôt noir, sombre, et que là, la parole de Dieu, et surtout l'appel à Dieu et puis à Jésus en prière, nous permet de nous éclairer, justement, sur l'attitude à avoir quand c'est sombre comme ça, et qu'on est un peu désemparé, qu'on ne sait pas comment faire pour s'en sortir. D'où la foi et le fait qu'on est des enfants de Dieu, quoi.
Eh oui. Sébastien Combes, en quoi la session de théologie pratique répond aux propos de du théologien?
Par rapport à l'espérance?
Oui.
La croix source d'espérance, je crois qu'il y a un gros paradoxe. La croix, c'est pas le lieu de l'espérance, c'est le lieu de la souffrance, quelque part. C'est par là. D'ailleurs, les théologiens en ont parlé à Nevers, ça avait un peu choqué. On peut parler du scandale de la croix, comment finalement c'est un instrument de supplice.
De torture. On a employé carrément les théologiennes nous ont fait un électrochoc dès l'arrivée en nous expliquant que la croix, où Jésus était posé dessus lors de quand il a été crucifié, que c'était une torture des Gaulois, ou je sais pas,
des Romains.
Voilà. Mmh. Et une torture atroce.
Voilà. Ça a été très violent.
Très violent pour nous.
Parce qu'on imaginait, moi j'imaginais la croix, c'est le Seigneur, et c'est pour nos péchés qu'il a été crucifié. Mais la façon que la théologienne nous l'a présenté, pour moi, ça m'a dérangé, quoi. Ça m'a bousculé. Ça nous a
bousculé. Ouais. Beaucoup.
Et donc, la croix est un scandale. Cependant, c'est une source d'espérance pour tous les chrétiens, puisqu'il y a la résurrection après. Mais souvent, on fait un peu le passage un peu vite. Et quand Tania, Paulette ou d'autres me parlent de leur souffrance, souvent, ils font référence à la croix. Paulette, tu l'as dit tout à l'heure. Ah oui. Tu as dit, moi, je souffre, mais le Christ, il a souffert aussi et il souffre comme moi. Et quelque part, et puis après, tu dis, oui, mais je dors. Et le lendemain, puisque Dieu est présent, ça va mieux. Et en fait, c'est au cœur de nos plus grandes galères que l'espérance se manifeste le mieux. Parce que quand il n'y a plus rien, on se rend compte qu'il ne reste plus que l'espérance. Alors l'espérance, c'est pas forcément le fait que le monde ira mieux ou que moi j'irai mieux, mais comme le dit Paulette, même si je dors et que c'est pire, je sais que Dieu m'accompagne. L'espérance, elle est là. Même si c'est pire, Dieu m'accompagne.
Je ne suis pas
voilà,
seule.
Voilà mon espérance. Et donc oui, tout ça fait écho, ça se croise, ça rentre en résonance les unes avec les autres. La croix, la vie des personnes qui vivent la galère, l'enseignement des théologiens, Tout ça nous permet de rentrer dans ce mystère de l'espérance, dans ce mystère de la croix. Encore une fois, souvent, on a tendance à... Moi, je dis bisounourser. Mmh. Je ne sais pas si ça parlera à tous les auditeurs, mais l'évangile et la croix de l'édulcorer. Y a quelque chose qui rentre en résonance avec nos vies, nos propres souffrances. Chaque auditeur, je pense, il n'y en a pas un seul qui pourra dire que dans sa vie, il n'a pas souffert. Mais malheureusement, nous n'avons pas tous la grâce, comme nous l'ont partagé aujourd'hui Tania et Paulette, de reconnaître dans ces souffrances la présence de Dieu tout de même.
Voilà que moi, il y a un de mes frères carrément, c'est pas de Bartimée qui nous a choqués aussi là-bas, parce qu'il a dit une seule phrase. Ce monsieur n'avait parlé dans les deux jours qu'on a été à Nevers, il parlait jamais. Et la seule phrase qu'il a dit, c'est « Il faut avoir vécu la galère au plus mal, au fond, d'être au fond du trou pour comprendre ce que c'est l'espérance. »
Oui.
Qu'il y a quelque chose qui nous fait remonter. C'est d'avoir touché déjà le fond. Donc voilà, il faut se mettre dans la tête aussi que... nous, les pauvres, on le vit sensiblement, systématiquement, souvent, d'être au fond du trou. Et donc, voilà, c'est cette image-là qui nous a beaucoup, vers la fin, hein, Paulette, ça nous a vraiment, et ça nous a touchés, parce qu'on se reconnaissait grave, quoi, dans sa parole.
Oui, donc finalement, c'est une... Vous avez été frappé de plein fouet lors de cette session à Nevers, par cette croix et ce scandale de la croix. Et à côté de ça, vous avez cheminé pour que vous réalisiez que, en fait, grâce à cette croix, Jésus, il est là. Au cœur de vos galères et vos difficultés. Ça, oui.
Et la résurrection, c'est un peu l'espérance aussi. Le fait de l'avoir vu tomber, quand il est descendu, donc on a descendu son corps et qu'on a récupéré son corps de la croix et qu'il a été après dans le tombeau et qu'on a retrouvé le linceul vide, la résurrection, quoi, c'est quelque chose de miraculeux, de magnifique. On se dit que il a souffert énormément sur la croix, il a saigné, on lui a transpercé le côté droit. Mais quand il s'est retrouvé dans le tombeau, eh ben il s'est réveillé. Voilà.
Moi, quand on est arrivé à Nevers, on est arrivé très tard. Hein, parce que c'était décalage de train. Et puis, dès qu'on est arrivé, moi, j'ai foncé à la petite chapelle.
Oui, à Bernadette.
Il y avait Bernadette.
Et oui.
Et bien là, j'étais un nettoyage intérieur. Comme si on m'avait nettoyé tout l'intérieur, quoi. J'ai prié pour les intentions. Mais alors, je sentis, c'est inimaginable, une paix, mais alors, c'était jamais j'ai pu ressentir une paix comme ça. J'étais nettoyée, comme je vous dis, à l'intérieur. Et après, j'ai bien aimé quand on a fait les échanges aux petits groupes.
Alors, ça, on va
quand
en parler.
On a travaillé sur les scènes.
Oui.
Et c'est formidable d'entendre les uns et les autres
dire la même chose qu'on ressent.
Ils regardaient le dessin.
Et ils voyaient
chacun disait ce qui lui frappait. Et on s'est rendu compte que. Arrive un moment, on arrivait tous au même...
À la même conclusion.
À la même conclusion, voilà. Certaines scènes, même de la bouche d'une théologienne, parce que moi, c'était dans mon atelier, c'était une théologienne en plus qui parlait. Et donc, ce qu'elle ressentait en même temps que nous, on ressentait, eh bien, on s'est rejoints. On s'est rejoints vers la fin. C'était la même chose. C'est magique. Parce qu'en fin de compte, c'est vraiment très beau de voir que, voilà, il n'y a pas que nous, ce qui est les pauvres, la misère. Tout. On peut aussi rencontrer des théologiens qui ont vécu les mêmes choses et qui ressentent la même chose.
Et moi, dans mon petit groupe, j'avais l'évêque.
Alors, je vous propose qu'après la pause musicale, vous nous détaillez effectivement ce que vous avez vécu à Nevers. Je passe juste avant la pause la parole à Sébastien.
Oui, ben en fait, quand on parle des petits groupes, il y a des petits groupes où on étudie le texte petit bout par petit bout. Et dans ces groupes, il y a des évêques, des théologiens, des personnes, des acteurs pastoraux, des animateurs, et puis des personnes qui vivent la galère. Et en fait, c'est chouette de voir comment, finalement, personne ne vit des choses extraordinaires, c'est-à-dire qu'ils sortent de l'ordinaire. C'est dans la pâte humaine et dans des expériences.
Dans la simplicité.
Dans la simplicité. Alors, il y en a qui ont des expériences fortes d'études théologiques. Il y en a, donc les théologiens, il y en a des personnes qui ont des expériences fortes d'expériences pastorales parce qu'ils ont accompagné, puis il y en a des gens qui ont une expérience forte d'expérience de la misère, de la rencontre du Christ, d'un parallèle qu'ils font entre leurs souffrances et les leurs. Et en fait, quand on mélange tout ça, eh bien, les théologiens en sortent enrichis, les personnes qui vivent la pauvreté en sortent enrichis, et tous ceux qui s'inscrivent à cette session pour acteurs pastoraux, etc., s'en sortent enrichis et l'Église grandit.
Et l'Église grandit. Je vous propose d'écouter « Aux croix bienheureuses » d'Emmanuel Musique, et nous nous retrouvons juste après cette pause musicale.
Présence. Vivante Église, Isabelle Duché.
La troisième session de théologie pratique est proposée à Toulouse les 15 et 16 février. Elle rassemble des pauvres et des théologiens afin d'instaurer un dialogue riche sur la parole de Dieu. Pour la présenter, nous sommes avec Tania, Paulette et Sébastien Combre. Vous nous avez parlé en en première partie de cette émission de ce que représente la parole de Dieu et aussi la croix de Jésus dans votre vie. Je vous propose qu'on démarre cette deuxième partie avec encore un petit extrait de ce théologien, le père François Audinet, à propos du poids de la croix.
On peut dire que le poids de la croix, il pèse particulièrement sur les personnes en précarité. D'ailleurs, elles sont souvent très attentives à la croix du Christ parce qu'elles relèvent que le Christ a vécu ce qu'elles vivent, a subi ce qu'elles subissent. C'est-à-dire qu'il a subi une très grande violence, c'est évident, mais le Christ a, dans sa passion, subi aussi le poids du mensonge, le poids du discrédit, des faux jugements, voilà, de la trahison. Et ça, ce sont des expériences que font les personnes en grande précarité. Elles reconnaissent que le Christ est vraiment devenu l'un des leurs. Il est mort de leur mort à elles. Et alors, elles sont d'autant plus frappées par cette bonté du Christ, par son pardon, le pardon qu'il donne sur la croix. C'est-à-dire qu'elles sont très attentives à la manière dont le Christ a traversé sa passion. Et puis, bien sûr, dans ce cadre-là, quand on fait attention au fait que le Christ est mort de la mort des pauvres, eh bien, l'annonce de la résurrection, elle constitue une espérance, pas une espérance désincarnée, lointaine ou un peu éthérée, mais l'espérance que Dieu ne laisse pas tomber celui qui est victime de violence et d'injustice, mais qu'il est là pour le relever, il est là pour le garder.
C'était le père François Audinet sur le poids de la croix. Je vous ai vu, Tania, hocher de la tête. Qu'est-ce qui vous parle dans ce que dit ce théologien ?
Il est magnifique. J'apprécie beaucoup ce qu'il dit. Mm. On se reconnaît vraiment en lui. Et on voit que il s'intéresse à nous, quoi.
Ouais.
Que c'est pas anodin, c'est pas quelque chose d'anodin, c'est vraiment quelque chose de réel. Et on voit bien le sang de Jésus, on voit bien qu'il souffre, qu'on lui met du vinaigre, on lui met plein de choses horribles, on le tabasse, et porte sa croix qui est très lourde en plus. Et puis que l'aide, la solidarité, quand Siméon vient l'aider pour porter sa croix aussi, après il est crucifié, mais après c'est un peu la dernière parole quand il dit à son papa pourquoi tu m'as abandonné, voilà. Mmh. Où il a le sentiment d'avoir été abandonné quand il est sur la croix, mais après la résurrection, c'est l'espoir, c'est ça,
c'est
l'espoir que d'avoir dit ça à son papa. Eh bien, il l'a entendu. Et à première vue, ça s'est fait parce qu'il y a eu la résurrection après.
C'est ça.
C'était magnifique.
Vous avez fait la rencontre à Nevers de Bernadette de Lourdes, puisque...
Bernadette Soubirou.
Bernadette Soubirou, voilà, puisqu'elle a été religieuse à Nevers et donc...
Elle était sœur de la charité à Nevers.
Qu'est-ce que vous avez découvert de cette sainte quand vous avez été là-bas à Nevers?
Moi, j'ai découvert que j'étais devant... Et quand on est devant elle, rien que de la voir, un beau visage, tout ça, tout sort, on se confie tout. Des choses qu'on ne peut pas dire à la famille, et tout d'un coup, tout sort. Hein. On y confie tout. Et comme je vous disais, on sort léger, quoi.
Ouais,
parce qu'on a tout déposé à ses pieds. Et on a l'espérance qu'elle va être avec nous, comme le Seigneur avec nous.
Vrai.
Pour continuer, parce que le théologien parlait de la croix qui est lourde. Cette croix, elle est lourde à porter, c'est vrai. Mais elle peut être légère. Mais ça dépend de nous. Elle peut être légère si on la porte avec Dieu. Si on la porte avec lui, elle peut être légère. Oui, il faut savoir, voilà. Moi, je dis, ma croix, je la porte. Mais elle me semble plus légère parce que je la porte avec le Seigneur. Voilà.
Sébastien Combre, la session qui va avoir lieu ce week-end, est-ce que vous pouvez nous brosser un petit peu l'agencement, le déroulé?
Alors, il y a des temps en petits groupes, on appelle ça des fraternités, c'est un peu l'essentiel de la session. Cependant, il y a aussi des temps, ce qu'on appelle en plénier, c'est-à-dire tous ensemble, il y en a deux. Et on étudie donc sur ces temps en fraternité et ces temps en plénier une tapisserie d'une croix, une tapisserie haïtienne et un texte d'une théologienne. Et en fait, ce croisement entre cette tapisserie qui illustre une croix et le travail avec, enfin le travail sur le texte d'une théologienne, les petits groupes, les petites fraternités sont amenés à écrire un texte. Et là, lors de la dernière session, le dernier temps en plénier, il y a un échange, donc un vrai échange entre les théologiens, les gens qui ont écrit. Donc en fait, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a une pédagogie qui permet à chacun de s'exprimer, qui permet à... Parce que c'est pas simple hein, quand on est des personnes qui ont des expériences différentes. Soit on met le focus sur le témoignage, soit on met son focus sur l'enseignement universitaire et il se passe pas de vrai mélange. Donc il y a une pédagogie pour que ça puisse être, ce mélange puisse s'opérer. Et évidemment, il y a des temps de prière, une veillée festive, la messe à 14h. D'ailleurs, si vous voulez nous rejoindre, c'est ouvert à tout le monde. C'est Notre-Dame de Grâce, la messe à 14h. Et puis des temps de repas, parce que ça fait partie de la session de partager
de la fraternité.
Cette fraternité. Oui, tout à fait.
Oui. Vous avez donc vécu cette session à Nevers, Tania et Paulette. Et c'est la même session, le même déroulé qui va avoir lieu à Toulouse. Oui. Vous avez travaillé à partir d'une tapisserie. Est-ce que vous pouvez nous décrire ce qui est sur cette tapisserie et puis ce que ça vous a inspiré en fait comme réflexion?
Alors la tapisserie, l'image que j'ai, c'est le centre, un arbre et Jésus qui est sur l'arbre.
L'arbre de vie.
Voilà, l'arbre de vie et beaucoup de couleurs qui expliquent le sombre et qui expliquent la lumière, l'espérance. Donc c'est un petit peu, ça se superpose et ça fait bouger notre... voilà, on a l'impression de se retrouver dans certaines scènes et dans la scène, il y a la chose qui est sombre et il y a le résultat qui est l'espérance et la résurrection, donc la lumière.
Moi, la scène qui m'a marquée, c'était que... Il y avait des gens qui étaient en train de tomber comme dans un bateau ou sous terre, sous les tunnels, quoi. Et alors, et tout le monde s'agrippait comme ça. Et au bout, il y avait... Moi, je disais, c'est Dieu, puisqu'il était tout en blanc. Et il y avait des colombes, tout ça, là. Et on voyait qu'ils s'agrippaient. Et il y avait une main qui essayait de les remonter.
De les sortir de l'eau.
Alors, je me dis, c'est nous. C'est le peuple sans voix, c'est nous, les pauvres... qu'on est en train de tomber et puis qu'il y a quelqu'un qui nous essaye de nous rattraper pour nous amener à Dieu, ou même Dieu qui fait qu'on se sauve. Quoi. Et puis c'est bien parce qu'après nous on voyait cette image-là, mais d'autres qui étaient avec nous ne voyaient pas ça. Ils disaient autre chose, eux voyaient autre chose. Quoi. Voilà. Mais c'est bien. Moi j'adorais parce que j'écoutais ce que les uns et les autres disaient. Et puis c'était les gens qu'on ne connaissait pas parce qu'on s'est rencontrés ce jour-là. On ne connaissait pas du tout.
C'est ce que vous
gens.
Disiez au début de l'émission, en fait vous vous enrichissez mutuellement.
Voilà. Ouais. Des histoires de personnes qu'on ne connaissait pas. Et à travers cette tapisserie, il est ressorti les choses qui se passent actuellement, comme les violences conjugales, les droits de l'homme bafoués, les choses comme ça, et les choses qui sont en train de se passer là et qui nous font souffrir en plus en ce moment. Voilà.
Et vous avez aussi étudié un texte d'une théologienne. Alors, ce texte, on ne va pas pouvoir le lire parce qu'il est très long. Il est d'Yvonne Gébara. Quelques mots peut-être sur ce texte, Sébastien Combe.
Il est compliqué. Il est difficile.
Pourquoi ce choix?
Et ben parce que je pense que ceux qui y ont pensé, et j'en fais partie, aiment les challenges. Et que c'est pas parce qu'on vit... qu'on vit la misère, qu'on n'a pas forcément fait d'études, qu'on ne peut pas comprendre des textes compliqués, ou en tout cas, on ne peut pas comprendre quelque chose d'un texte qui semble compliqué. Et en fait, même ce texte compliqué, comme l'Évangile parfois, quand quelqu'un qui vit autre chose, qui n'a pas forcément fait d'études de théologie, dit quelque chose sur ce texte, il s'éclaire d'une façon différente, et le sujet dont traite le texte s'éclaire d'une façon différente. Encore une fois, quand les choses se croisent, la théologienne, elle dit quelque chose sur la croix. Les pauvres entendent ce que la théologienne dise et nous disent ce qu'eux, ils pensent de la croix en fonction de ce qu'ils ont entendu. J'entends, je parle, en fonction de ce que j'ai entendu, une pensée naît, et une pensée commune. Et donc, y a quelque chose qui se croise, et chaque petit groupe fait naître une pensée avec les expériences de chacun, et lors de la dernière, le dernier temps en plénier, ces pensées se croisent pour que finalement il puisse y avoir une pensée commune. Alors, moi, je ne sais pas une pensée commune, la pensée unique, etc. Hein. C'est...
Un consensus, c'est... peut-être ?
Non, justement, non, je ne crois pas, parce que le consensus, ça pourrait être le plus petit dénominateur commun. Ah oui. C'est plutôt un élargissement. C'est chacun qui repart avec quelque chose d'autre de ce à quoi il était venu. Il était venu avec quelque chose, il part avec autre chose. Et ce avec quoi il était venu, il l'a déposé, il l'a donné. Et ensemble, si on l'avait pas posé ensemble, eh bien, on ne serait pas reparti avec ce qui nous a été offert ce jour-là. Quoi. Oui. C'est un cadeau mutuel, quelque part.
C'est un ?
Un cadeau mutuel.
Ah, un cadeau mutuel, oui, oui, c'est ça. Qu'est-ce que vous avez découvert, vous, dans ce texte de cette théologienne ?
Comme il disait Sébastien, c'était très compliqué. Il a fallu le lire au moins deux ou trois fois.
Oui, déjà.
Et tous les groupes, ils avaient tous le même texte. Et après, on lisait et on posait le doigt sur ce que nous parlait
un mot.
Le plus.
Ouais. Et par exemple, qu'est-ce qui vous a touché, vous, Tania ?
C'est le fait d'expliquer que nous, hommes et femmes, il y a des gestes simples de la vie qui est la solidarité qui peut être la victoire sur la mort, sur des choses comme ça. Que des simples gestes, comme le monsieur qui tire l'enfant qui va tomber, celui qui pousse ses petites fesses pour monter une colline, ces petits gestes-là, ça permet justement peut-être de... Et puis Jésus, quand il était aussi sur la croix et que quand Siméon, encore une fois, je redis que Siméon l'a aidé à porter la croix.
Simon de Cyrène.
Voilà, Simon de Cyrène, voilà, c'est ça. Eh bien, Jésus a souffert un peu moins parce qu'il y avait les bras de ce monsieur qui l'a aidé quand sa maman l'a pris dans ses bras. Les douleurs étaient les souffrances étaient moins soutenables. Mmh. Voilà. Je veux dire que c'est des petits gestes comme ça. Et la théologienne, elle expliquait aussi que voilà, c'est la mort injuste, elle n'a pas le dernier mot. Voilà. Mmh. Qu'il a été jugé de manière injuste, il a été puni de manière injuste, mais il a vaincu sur la mort, la résurrection. Voilà.
Mmh. Sébastien Combe.
Moi, j'ai interrogé deux, trois participants, un peu comme vous le faites. Qu'est-ce que vous avez retenu sur le texte ? C'est assez, effectivement... j'allais dire, c'est pas très, y a pas grand chose. Ouais, mais vrai. Pourquoi ? Parce que ce qui est important, c'est pas d'avoir retenu quelque chose sur le texte. Parce que quand on les interroge, qu'est-ce qu'ils ont retenu sur la session ? Là, il y a des éléments nouveaux qui naissent. Ils peuvent dire, moi là, ce que j'ai appris. Mais on l'a appris parce qu'on est parti à partir d'un texte. On est parti à partir de nos expériences. On va pas. L'objectif de cette session, c'est pas de comprendre le texte de la théologienne. C'est de comprendre différemment, de donner quelque chose de différent à l'Église parce que, encore une fois, on a croisé ces différentes façons de voir ce sujet, la croix et l'espérance.
Mmh. Oui. Aujourd'hui, maintenant que vous êtes rentrée de Nevers, comment vous êtes... est-ce que vous avez changé ? Est-ce que vous n'êtes pas les mêmes personnes depuis que vous êtes rentrée par rapport à la façon dont vous êtes arrivé à Nevers ?
Moi, je me trouve toujours, toujours la même, quoi. Mais c'est vrai, c'est plus forte.
Plus forte.
Plus forte. Mmh. Voilà. Parce que je lui ai demandé justement de me donner de la force à Bernadette quand j'étais devant. Je me sens plus forte. Là. Et puis j'ai toujours voulu y aller, et chaque fois il n'y avait jamais de place. Et là, eh bien, le Seigneur m'a donné la grâce d'y aller, et voilà. Ouais. Là, je me sens plus forte.
Et vous, Tania ?
Moi, je suis admirative de Bernadette, de tout. Et en fin de compte, ça m'a transformée un petit peu quand même. J'ai été jusqu'à créer une chanson sur l'espérance. Parce que je me rabats aussi au fait que le pape a dit que pour cette année 2025, le mot était espérance.
Oui.
Et qu'il fallait travailler sur ça. Et quand je suis revenu de Nevers, eh ben, j'ai eu une inspiration et j'ai écrit une chanson que je vais sûrement exposer à la théologie, au Christ au roi. Je vais en parler et voir si je peux la chanter. Parce que
voilà, ce sera le, ce sera le,
la, elle la s'appelle, surprise elle s'appelle de cette Espérance, session. Elle s'appelle Espérance. Elle s'appelle Espérance. Et c'est une chanson de 1966, c'est « Ma liberté » de M. Reggiani.
Ah oui. Voilà. Donc vous reprenez cet air et vous avez échangé les paroles.
Avec des mots, des de mots propres mots l'espérance. Des pauvres et de tout ça pour la théologie.
Mais on est les pèlerins de l'espérance.
Oui, voilà, et c'est exactement sommes. Le thème de cette année sainte. Merci beaucoup à vous trois. Merci Tania et Paulette et merci Sébastien Combe de nous avoir éclairés sur cette session de théologie pratique qui aura lieu les 15 et 16 février. À l'espace Philothée à Toulouse. Il reste quelques places et il faut s'inscrire sur le site du diocèse de Toulouse.
Tout à fait.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
Merci à vous.